Chapitre 32. Le sacrifice accepté. Pendant toute la journée, la malade sembla préoccupée de pensées à la fois profondes et consolantes. Fabiola, qui ne la quitta que pour donner des ordres indispensables, la regardait sans cesse avec une joie mêlée de crainte. L'esprit de la servante paraissait élevé au-dessus de la sphère du monde et habité dans une région toute différente. Parfois un sourire, semblable à un rayon de soleil, illuminait son visage. Parfois aussi, une larme tremblait à sa paupière et venait glisser le long de sa joue. Ses yeux élevés vers le ciel le contemplaient longtemps, tandis qu'un regard rempli de béatitude et de calme jouissance s'échappait de ses noires prunelles. Alors elle contemplait sa maîtresse avec une expression de tendresse infinie et lui tendait la main pour qu'elle la pressât dans les siennes. Et Fabiola restait ainsi, assise pendant de longues heures, gardant scrupuleusement le silence. Puis il lui semblait qu'elle devenait meilleure au contact de cette âme d'élite. Rester près d'elle, c'était un honneur pour la noble patricienne. Enfin, dans le courant de la journée, après avoir fait prendre quelque nourriture à la malade, elle lui dit en souriant « Je vous trouve déjà beaucoup mieux, Myriam. Votre médecin doit vous avoir donné une potion merveilleuse. » « Oui, en vérité, ma chère maîtresse. » Fabiola parut peinée et, se penchant vers la malade, elle lui dit doucement « Oh, je vous en supplie, ne m'appelez pas ainsi. Si ce titre doit appartenir à l'une de nous, c'est bien à vous. Et dans le fait, il n'a plus pour vous sa raison d'être. Ce que je désirais depuis si longtemps est enfin accompli. L'acte de votre libération a été ordonné et vous n'êtes même pas une affranchie, mais une Ingenua, car je sais que vous êtes née libre. » Myriam la remercia du regard, craignant de blesser la délicatesse de Fabiola, et elles continuèrent à jouir de leur bonheur en silence. Dionysius revint vers le soir et trouva tant d'amélioration dans l'état de la malade qu'il permit des aliments plus nourrissants et leva la consigne du silence absolu. « Je dois à présent, dit Fabiola, aussitôt qu'elles se trouvèrent seules, remplir le premier devoir dont mon cœur est pénétré, vous exprimer ma reconnaissance. Je voudrais connaître un mot plus fort, non pas seulement pour m'avoir sauvé la vie, mais vous remercier du sacrifice magnanime que vous avez accompli pour arriver à ce but, en immolant la vôtre et en donnant, permettez-moi de vous le dire, l'exemple incomparable d'une vertu héroïque qui seule a pu vous inspirer. Après tout, qu'ai-je fait? Seulement mon devoir. Vous aviez droit sur ma vie et vous pouviez me la demander pour un motif moins important que le salut de la vôtre, répondit Myriam. Sans doute, répondit Fabiola. Cela peut vous paraître ainsi à vous parce que vous avez été élevé dans cette doctrine qui me ravit et qui enseigne que les actes les plus héroïques doivent être considérés par les hommes comme des devoirs ordinaires. C'est pourquoi, répondit Myriam, ils cessent d'être regardés comme héroïques. Non, non, s'écria Fabiola avec enthousiasme, n'essayez pas de m'inspirer le mépris de mon propre cœur en m'enseignant à déprécier ce que je considère comme un acte de vertu surhumaine. « Depuis que j'en ai été témoin, j'y réfléchis jour et nuit, et mon cœur désirerait ardemment vous parler de mes pensées sur ce point. Et même, je n'ose pas encore vous les communiquer, je crains que votre faiblesse ne succombe sous le poids des aspirations qui m'oppressent. Oui, votre action était noble, elle était grande et au-dessus de tout éloge, quoique, je le sais, vous ne teniez pas aux louanges. Je ne crois pas qu'un acte si sublime puisse être dépassé, ou que la vertu humaine puisse s'élever d'un pas plus haut. » Myriam, qui s'était soulevée, prit la main de Fabiola entre les siennes et, se tournant vers elle, lui dit sur un ton doux et pressant. « Douce et chère Fabiola, écoutez-moi un instant. Je ne déprécierai pas l'action que vous êtes assez bonne pour estimer, puisque cela vous plaît. Mais pour vous faire comprendre la distance qui nous sépare encore de l'idéal que nous poursuivons, souffrez que je vous retrace une scène du même genre où les rôles sont intervertis. Supposons un esclave, pardonnez-moi, chère Fabiola, de vous affliger encore par ce mot, je lis votre peine sur votre visage, mais ce sera la dernière fois. Oui, supposons un esclave brutal, ingrat, rebelle, qui appartient au meilleur et au plus généreux des maîtres. Supposons que le coup qui finira ses jours doive être frappé non par un assassin, mais par l'exécuteur de la justice humaine. Comment appellerez-vous l'acte? Comment caractériserez-vous la vertu du maître qui, par un pur amour et pour sauver cet homme misérable, irait se placer entre la hache et lui, endurer toutes les tortures qui l'attendaient, après lui avoir légué ses biens, ses titres de noblesse, avoir déclaré qu'il le regardait comme un frère? Oh, Myriam, Myriam, vous avez tracé un tableau trop sublime pour être réalisé par l'humanité. Vous n'avez cependant pas éclipsé votre action si dévouée, car je parlais de la vertu humaine. Accomplir l'action que vous venez de dire, ce serait montrer la puissance d'un dieu. Myriam pressa sur sa poitrine les deux mains qu'elle tenait, fixa sur Fabiola étonnée un regard rempli de l'inspiration divine et répliqua d'une voix douce et solennelle à la fois. « Aussi Jésus-Christ, qui accomplit ses actes surhumains pour l'homme, était vraiment Dieu. » Fabiola se couvrit le visage de ses deux mains et resta longtemps silencieuse. Myriam priait avec ardeur dans son âme paisible. « Myriam, c'est du fond du cœur que je vous remercie, » dit à la fin Fabiola. « Vous avez rempli votre promesse d'être mon guide. J'ai craint pendant quelque temps que vous ne fussiez pas chrétienne, mais cela ne pouvait pas être. Dites-moi à présent quels sont ces mots, à la fois redoutables et doux, que vous venez de prononcer. Ils ont pénétré sans bruit, mais pour toujours dans mon âme, comme la pièce d'or qui, jetée à la surface de l'océan, plonge jusque dans ses profondeurs inconnues. Ces mots sont-ils une simple partie du système des chrétiens, ou bien renferment-ils son principe essentiel? Au moyen d'une simple allégorie, noble dame, votre esprit pénétrant et vif a su atteindre d'un seul jet la clé principale de tout votre enseignement. Votre intelligence ardente a extrait et condensé dans une seule pensée les doctrines vivifiantes les plus sublimes du christianisme et, comme un alambic précieux, votre esprit les a distillées dans leur essence même. L'homme, créature de Dieu et son esclave, s'était révolté contre son Seigneur. Sa justice infinie l'a poursuivi et condamné. Mais le Seigneur lui-même prit la forme de serviteur. Il se rendit semblable à l'homme et, sous la forme humaine, souffrit la flagellation, les souffrances, les railleries. Il supporta une mort ignominieuse et devint le crucifié, ainsi que les hommes l'ont nommé ici. C'est ainsi qu'il racheta le genre humain de la malédiction divine et lui donna part aux richesses de son royaume. Tout cela est compris dans les paroles que je viens de prononcer. Et vous avez atteint d'un seul coup la véritable conclusion. Un Dieu pouvait seul agir divinement et offrir une si sublime réparation. Fabiola, encore absorbée dans ses pensées, restait silencieuse, puis elle demanda timidement. « Est-ce à cela que vous faisiez allusion en Campanie quand vous disiez qu'un Dieu seul était une victime digne d'un Dieu ?»« Oui, et je faisais aussi allusion à la continuation de ce sacrifice qui se perpétue de nos jours même par une merveilleuse dispensation d'un amour tout-puissant. Mais je ne puis encore vous parler de ce prodige de l'amour divin. » « Je vois à chaque instant, » conclut Fabiola, « que tout ce que vous m'avez dit s'enchaîne et se suit comme les parties d'une seule plante naissant l'une de l'autre. Je croyais que tous vos discours portaient seulement les fleurs charmantes d'une élégante théorie. Par votre conduite, vous m'avez fait voir qu'elle produisait des fruits aussi suaves que solides. Dans la doctrine que vous venez d'exposer, je crois apercevoir la noble tige où toutes les branches viennent se rattacher et où les fruits puisent leur sève. Qui voudrait refuser de faire pour un autre beaucoup moins que ce que Dieu a accompli pour nous? Mais, Myriam, cette tige sublime doit avoir ses racines cachées. L'obscurité qui l'entoure empêche peut-être à la contemplation de pénétrer jusqu'à elle. Sa complexité la place au-dessus de l'intelligence humaine. Mais peut-être est-elle assez simple pour être à la portée de l'esprit confiant et docile. Si dans mon ignorance présente j'osais parler, je dirais qu'il y a là assez de grandeur pour occuper toute la nature, assez de richesse pour fournir à la création tout ce qu'elle renferme de bon et de parfait, assez de force pour donner la sève et la croissance à votre noble tige jusqu'à ce que son sommet dépasse le niveau des étoiles et que les racines atteignent les extrémités de la terre. Voilà quelle est mon idée sur ce Dieu que vous m'avez fait craindre quand vous m'avez parlé de lui en philosophe, me le représentant comme un être invisible, toujours présent, qui veille sur les actions et sur les pensées des hommes et qui les jugera, mais que vous me ferez aimer lorsque, parlant en chrétienne, vous me montrerez en lui la racine et l'origine de l'amour et de la miséricorde infinie. Sans quelque profond mystère, sans sa nature encore inconnue pour moi, je ne puis comprendre cette doctrine merveilleuse de la rédemption de l'homme. Fabiola, répondit Myriam, des maîtres plus savants que moi entreprendront l'instruction d'un être aussi bien doué et d'un esprit aussi vif que le vôtre. Mais me croirez-vous si j'essaie de vous donner quelque explication ? Myriam, répondit la jeune fille avec force, celle qui est prête à mourir pour une personne ne la trompera certainement pas. Et maintenant, répondit la malade en souriant, vous venez de saisir encore un grand principe, celui de la foi. Je vous dirai donc simplement ce que Jésus-Christ, qui est véritablement mort pour nous, nous a enseigné. Vous croirez mes paroles comme celles d'un témoin fidèle, vous recevrez les siennes, elles émanent d'un Dieu infaillible. Fabiola inclina la tête. Elle écouta avec respect celle qu'elle honorait depuis longtemps comme un maître instruit dans la science d'une sagesse merveilleuse tirée d'une école inconnue et que maintenant elle était prête à adorer comme l'ange qui, de sa main puissante, allait briser pour elle les digues de l'océan de la sagesse éternelle dont les eaux rafraîchissantes inondent la terre. Myriam lui exposa, dans les simples termes de l'enseignement catholique, la doctrine sublime de la Trinité. Après avoir raconté la chute de l'homme, elle lui parla du mystère de l'incarnation, se servant des paroles mêmes de saint Jean l'apôtre pour expliquer à Fabiola l'éternelle génération du Verbe avant qu'il se soit fait chair et qu'il ait habité parmi les hommes. Souvent son élève l'interrompait par des expressions d'admiration ou d'assentiment. Jamais une parole de doute ou un argument contradictoire ne vint à ses lèvres. La philosophie avait cédé la place à la religion, la subtilité à la docilité du cœur, l'incrédulité à la foi. Mais tout à coup, une expression de tristesse se répandit sur le visage de Fabiola. Myriam lut cette tristesse dans ses regards et lui en demanda la cause. « J'ose à peine vous le dire, répliqua-t-elle, mais toute la doctrine que vous m'avez exposée est si belle, si divine, qu'il me paraît nécessaire de ne pas aller plus loin. Le Verbe, quel noble nom ! C'est l'expression de l'amour de Dieu, la manifestation de sa sagesse, l'évidence de son pouvoir, le souffle même de la vie qui anime tout en ce monde. Le Créateur de toutes choses est devenu chair. Qui pourra donc le revêtir de cette chair périssable ? Prendra-t-il la forme fangeuse de l'humanité souillée ou créera-t-il pour lui seul un nouveau vêtement de chair ? Viendra-t-il occuper une place dans une double généalogie, recevant ainsi de deux côtés le flot de la corruption, et y aura-t-il sur terre un être assez hardi et assez grand pour se dire son père ?« Non, murmura doucement Myriam, mais il y a une seule créature assez sainte et assez humble à la fois pour être appelée sa mère. Environ 800 ans avant la venue du Fils de Dieu, un prophète parut parmi les Juifs, ses ennemis invétérés du Christ. Ce sont eux qui ont conservé les paroles de ce prophète que je vais répéter. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera nommé Emmanuel. Nom qui signifie en hébreu « Dieu est avec nous », c'est-à-dire avec les hommes. Cette prophétie s'accomplit dans la conception et dans la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Et qui était-elle cette sainte créature ? Demanda Fabiola avec un profond respect. Celle dont le nom est béni de tous ceux qui aiment vraiment son fils. Marie est le nom sous lequel vous la connaîtrez. Myriam est ce nom original dans sa propre langue. C'est sous ce nom que je l'honore. Sa sainteté et sa vertu l'avaient dignement préparée, comme vous le supposez, à sa haute destinée. Elle n'avait pas à se purifier, elle fut toujours pure. Exempte de la tâche du péché, elle n'eut pas à s'en délivrer. Par un décret éternel, le flot de la corruption dont vous parlez s'arrêtera à ses pieds, car Dieu ne pouvait permettre que sa sainteté même fût atteinte du fléau dont il devait nous délivrer, sans que sa sainteté infinie pût en être souillée. la glorieuse humanité que l'Esprit Saint forma et que Marie transmit à Jésus était brillante comme le sang d'Adam lorsque le souffle de Dieu le répandit étincelant dans ses veines, pure comme la chair d'Ève lorsqu'elle était encore dans le moule des mains du Tout-Puissant, après qu'il eut tiré cette chair du côté de l'homme endormi. Après ce glorieux privilège accordé à notre sexe, ne vous étonnez plus de voir un grand nombre de jeunes filles qui, comme votre douce Agnès, ont choisi cette incomparable Vierge comme la patronne de leur vie, et, trouvant en celle que Dieu lui-même a choisie le modèle de toutes les vertus, refusent le joug qui les lierait au char de ce monde, fût-ce même par les plus tendres nœuds, et cherchent à s'élever plus haut sur les ailes d'un amour sans partage comme le sien. Myriam prit un moment de repos et un peu de nourriture, puis elle raconta brièvement la naissance de notre Sauveur, sa jeunesse laborieuse, sa vie publique active et pleine de souffrances, et sa douloureuse passion. Souvent, ce récit fut interrompu par les sanglots de Fabiola et par les larmes attendries de la narratrice elle-même. Enfin, il était temps de se reposer quand Fabiola demanda humblement « Êtes-vous trop fatiguée pour répondre encore à une question ?»« Non !» répondit joyeusement Myriam. « Dites-moi alors, quel espoir il peut rester à une personne qui ne peut alléguer son ignorance car elle prétendait tout savoir, qui n'oserait dire qu'elle a négligé d'apprendre, car son esprit courait avidement vers les choses de l'intelligence, mais qui peut seulement avouer qu'elle a méprisé la vraie sagesse, qu'elle a blasphémé celui qui la donna, qu'elle s'est moquée des tourments qui prouvaient son amour, qu'elle a ri de la mort de celui qui était la rançon de l'humanité, et qu'elle appelait avec dérision le crucifié. » Un sanglot vint briser sa voix. Myriam attendit que ce flot de soulagement eût distillé la douce rosée qui attendrit le cœur. Puis, d'une voix pleine de tendresse, elle répondit en ces termes. « Au jour où vivait notre Seigneur, était une femme qui portait le même nom que sa mère sans tache. Mais elle avait péché publiquement et d'une manière dégradante que vous, Fabiola, auriez eu horreur d'imiter. Elle connut le Sauveur, nous ne savons comment, et dans le secret de son cœur flétri, elle commença par l'admirer, puis rechercha ardemment sa douce et gracieuse condescendance envers les pécheurs et son indulgence et sa miséricorde pour ceux qui étaient tombés. Elle l'aimait chaque jour davantage et, s'oubliant elle-même, ne cherchait plus qu'à manifester son amour, de manière à apporter quelque honneur, si léger qu'il fût, à notre Seigneur et à faire retomber sur elle tout le poids de la honte qu'elle méritait. Elle se rendit dans la maison d'un riche qui avait manqué au devoir de l'hospitalité envers l'hôte divin. Elle entra chez cet homme présomptueux qui méprisait les pécheurs publics. Elle rendit à celui qu'elle aimait l'hommage qu'on avait négligé de lui rendre, et on la méprisa, on la bafoua, comme elle s'y attendait, à cause de sa douleur qui semblait mal placée au milieu d'un festin où elle n'était pas conviée. Que fit-elle donc, Myriam ? Elle s'agenouilla aux pieds du maître, au moment où il se mettait à table, baigna ses pieds de ses larmes, les essuya avec sa brillante chevelure, les baisa avec ferveur et les oignit d'un parfum précieux. Et quel fut le résultat de cette action ? Jésus la défendit contre les moqueries de son hôte. Il lui dit qu'il lui était beaucoup pardonné parce qu'elle avait beaucoup aimé et la renvoya avec la plus grande bonté. Et que devint-elle ? Quand il fut crucifié sur le calvaire, deux femmes eurent le privilège de demeurer près de lui. Marie, la Vierge sans tache, et Marie, la pénitente, pour montrer que l'amour innocent et l'amour repentant peuvent se présenter ensemble devant celui qui a déclaré qu'il n'était pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. La conversation se termina là pour la soirée. Myriam, fatiguée par le dernier effort qu'elle avait fait, s'endormit paisiblement. Fabiola s'assit près d'elle, le cœur rempli de ce récit plein d'un amour ineffable. Elle réfléchit longuement et vit de plus en plus que les parties de ce merveilleux système se liaient admirablement les unes aux autres. Car si Myriam s'était montrée prête à mourir pour elle, afin d'imiter l'amour du Sauveur, Elle lui avait aussi pardonné quand elle l'avait blessé cruellement et sans raison. Chaque chrétien, Fabiola le sentait maintenant, devait être la copie, le portrait de son maître. Mais celle qui dormait si paisiblement à côté d'elle était vraiment un modèle parfait pour la jeune fille et pouvait représenter à ses yeux le divin modèle lui-même. Myriam, en s'éveillant au bout de quelque temps, trouva sa maîtresse, car l'acte de libération n'était pas encore terminé, couchée à ses pieds, sur lesquels la noble patricienne s'était endormie en pleurant. Myriam comprit de suite le sens et le mérite de cette humiliation volontaire. Elle ne fit pas un mouvement, mais avec un cœur plein de reconnaissance, remercia Dieu qui avait accepté son sacrifice. Fabiola, à son réveil, se glissa sur sa couche, sans avoir été remarquée, pensait-elle. Pour accomplir cet acte d'abaissement volontaire, elle avait souffert l'angoisse de son orgueil révolté. Mais elle s'était humiliée elle-même dans le secret de son cœur et avait vaincu sa vanité. Pour la première fois, elle sentit que son cœur était chrétien.